Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont vous pouvez trouver les 5 derniers opus sur le site Radicaux Libres, sur la page, pardon, Radicaux Libres du site de la radio, radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la journée de grève des personnels de la santé et du secteur médico-social. Oui, 300 personnes ont manifesté mardi dans les rues du Mans, en compagnie de François Ruffin, qui d'ailleurs a sorti un film il n'y a pas si longtemps, Debout les femmes. À voir si vous avez l'occasion ou alors pousser votre cinéma à le passer. Il est également député de la France Insoumise et il était venu se faire voir dans le coin ce mardi pour un meeting à la salle Henri Barbin. Auparavant, les grévistes étaient rassemblés place de la préfecture et parmi ces personnes, on trouvait des cégétistes, des insoumis, puisqu'il y avait des drapeaux également de la France Insoumise, mais aussi une délégation de la CFDT. C'est vous dire si ça pousse à la base, la CFDT est dans la rue. Et puis tout un tas d'acronymes sur des blouses, des blousons, des parkas et compagnie. La PAGE, par exemple, l'association pour adultes et jeunes handicapés. On avait aussi les personnels de la fondation Anaïs qui gère 100 établissements. Santé établissement dans 14 départements. L'ADAPI 72, bien sûr, qui emploie 1000 personnes et accueille 1900 résidents rien que sur le département. Et des employés qui ont des petits soucis puisqu'on veut leur sucrer un certain nombre de choses. L'association n'aurait pas le choix. Il est vrai que les associations ont en ce moment des petites difficultés de trésorerie et autres, dans le sens où les institutions, les collectivités territoriales qui sont chargées de les financer, ont pas de sous. Sans doute autre chose à faire, sans doute autre chose à financer. Et puis, on repère une pancarte tenue par une employée de la masse Simone Veil de Bouloir, maison d'accueil spécialisée. Elle assume d'avoir, je cite, « une pancarte pourrie, puisque ses conditions de travail et de salaire le sont pourries ». Et d'ailleurs, elle s'explique.
C'est écrit dessus, c'est nos conditions de travail qui sont pourries actuellement.
Travailler où, si c'est pas indiscret ?
À la masse Simone Veil.
Et c'est une maison d'accueil spécialisée, c'est ça ? Donc l'idée, c'est d'accueillir des handicapés ?
Oui, polyhandicapés.
Alors pourquoi elles sont pourries, vos conditions de travail ? C'est quelques exemples, je sais pas, le quotidien en fait.
Oui, le quotidien, c'est qu'on n'est pas assez en nombre pour les accompagner de la manière dont ils ont besoin en fait.
Est-ce que vous aimeriez faire quoi ?
Faire plus et répondre à leurs besoins.
Et là, vous n'avez pas du tout les moyens ?
On a très peu de moyens et ça se dégrade de plus en plus. On a de moins en moins de personnel et du coup, forcément, tout se dégrade.
Vous devez vous occuper de combien de résidents ?
Dans les papiers, on est 3 pour 10. Mais dans la réalité, on ne peut pas maintenir ces effectifs-là, en fait. Donc on fait de l'auto-remplacement et on a des remplaçants qui sont en arrêt aussi parce que c'est trop de poids et trop d'amplitude horaire pour assumer toutes nos responsabilités, en fait.
Ces personnes étant handicapées ne sont pas du tout autonomes ?
Pas autonome physiquement, après psychiquement, il y en a beaucoup qui comprennent tout ce qui se passe donc, et qui voient aussi qu'on n'est pas assez disponible pour on peut pas répondre à leurs demandes en fait.
Mais de fait, leur absence d'autonomie physique, ça vous oblige vous à les déplacer systématiquement ?
Bien sûr, oui, on a des accompagnements pour les laver, les habiller, les accompagner aux toilettes, les faire manger, tout le quotidien quoi.
Et vous vous retrouvez à faire ça vite ? Par manque de moyens humains ?
Oui, bien sûr, on doit faire ça vite et tout en maintenant une sécurité. Donc parfois, on ne peut pas les écouter parce qu'on n'a pas le temps non plus de les écouter. Quoi.
Et oui, pas le temps de s'écouter, pas le temps de s'entendre, pas le temps de penser, juste agir. Aller vite parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et tout ça avec des êtres humains. Et oui, ce ne sont pas des pièces en face desquelles nous sommes quand nous travaillons dans le médico-social. Et puis bien sûr, j'avais oublié de dire certains trucs. Alors une collègue a repris la parole.
On a du mal à recruter parce que justement les salaires sont bas. Donc les gens, on a plein de candidatures, mais les gens ne viennent pas travailler parce que lorsqu'ils voient la paye, ils préfèrent aller ailleurs. Où est-ce qu'il y a le Ségur notamment ? Donc c'est vrai qu'on peine à recruter. On en a même une unité qu'on a dû fermer l'internat parce qu'on n'a pas de personnel.
Quand vous parlez du Ségur, c'est l'augmentation de 183.
C'est exactement ça, oui. Dans beaucoup de structures, il y a les 180 euros en plus. Nous, on ne l'a pas, donc du coup, les gens ne viennent pas travailler à la masse de Bouloir.
Est-ce que le salaire compense tout ?
Une partie quand même. Enfin, en tout cas, notre directrice nous a dit qu'il y a à peu près 30 candidatures, la plupart elles ont dit non parce qu'on n'avait pas le Ségur. Et puis également aussi, ils font le choix, notre employeur fait le choix d'employer des non-diplômés. Alors bah, nous, on n'est pas contre, mais elles sont sous-payées. Ils les mettent sur des grilles alors qu'elles font le même travail que nous. Donc on vient aussi défendre ça. Voilà, un travail, même travail, mais travail, un salaire égal.
Quand vous parlez de votre employeur, c'est une entreprise, une association ?
C'est une association, l'ARPEP.
L'employeur, c'est l'ARPEP PDL, l'association régionale des PEP, les pupilles de l'enseignement public, l'association régionale des PEP des Pays de la Loire, une fédération d'éducation populaire qui se retrouve dans le grand bain du capitalisme. Est-ce bien sa place ? Le médico-social est l'exemple même du secteur d'activité qui ne peut pas s'inscrire dans la philosophie libérale. L'encadrement doit être important, donc forcément il faut des salaires, tant au niveau légal que du personnel. Le but ne peut pas être l'accroissement égoïste de ses richesses propres en espérant un ruissellement vers les populations les plus pauvres. Le simple fait que ce secteur d'activité soit soumis à une concurrence entre associations et fédérations d'associations est un non-sens. La mise en concurrence implique toujours le moins-disant social. Toujours. Pour que le financeur, en l'occurrence les collectivités territoriales comme les communes, les régions, et là plus particulièrement dans le médico-social pour le département, que ce financeur vous trouve assez peu cher et vous recrute, il va falloir rogner sur un certain nombre de postes et en l'occurrence sur le poste qu'on appelle les charges du personnel. Mais le médico-social ne gère pas des pièces, des stücks. En allemand. Non, il ne gère pas des pièces, il gère des personnes dans le médico-social. Des personnes qui manquent d'autonomie du fait du handicap le plus souvent. Et quand en réponse à un projet, une association ou une fédération d'associations répond en rognant sur les coûts pour gagner le marché, eh bien elle le fait assurément au détriment des résidents et surtout des personnels. Paye de misère, sous-effectif, donc épuisement, accident, burn-out, les étapes sont connues. Du fait de l'économicisation, l'introduction dans l'économie capitaliste de ces activités, le médico-social, la santé, l'enseignement, etc., etc., on a une totale perte de sens de cette activité au profit de la mesure d'un rendement. Un certain André Gorz, dont nous avons déjà un petit peu disséqué la pensée, le dit bien mieux que moi à propos des personnes âgées. Dans une émission de 1991 sur France Culture, on pouvait entendre ceci.
Comment voulons-nous au mieux organiser le maintien chez eux dans un contexte social, dans un réseau de relations sociales, des personnes qui ne travaillent plus de façon professionnelle et rémunérée. Si vous répondez avant tout pour créer de l'emploi, nous allons professionnaliser leur prise en charge à domicile, je dis ça n'est peut-être pas la meilleure solution. Car la meilleure solution, telle qu'elle est expérimentée en Scandinavie et à Berlin-Ouest, c'est de faire prendre en charge les personnes âgées non valides par les personnes âgées valides, qui, elles, ne demandent pas mieux que de trouver une activité d'aide, de soins, de se rendre socialement et individuellement utile en prenant en charge des tiers. C'est bien sûr une activité bénévole, non rémunérée, mais mutualisée à l'échelle nationale. Car la proposition du sénateur des affaires sociales de Berlin tend à dire « Toute personne âgée valide prenant en charge à titre bénévole pendant X heures une personne âgée non valide acquiert de ce fait un crédit qui lui donne droit, lorsqu'elle sera non valide elle-même, à un service équivalent. Donc vous avez une mutualisation non monétaire de la prise en charge qui a l'avantage que les personnes qui prennent en charge d'autres ne sont pas des professionnels, que leur activité n'est pas monétarisée et qu'elle échappe au vice profond de la monétarisation, c'est que dès qu'il y a paiement, il y a tendance à vouloir mesurer un rendement. Dès que vous êtes payé pour votre travail, celui qui vous paye voudra obtenir le maximum pour ce qu'il paye. Et vous avez cela dans les hôpitaux, vous l'avez dans l'enseignement, où bien qu'il n'y ait pas une mesure formelle du rendement, il y a une tendance toujours à vouloir accroître le rendement des personnels en place en les mettant sous pression, en économisant sur leurs effectifs et sur leurs salaires. C'est ça le problème. Ce qui détruit le sens profond et de l'activité éducative et de l'activité de soins ou de prise en charge d'autrui.
Au-delà des conditions de travail qu'il faut sans conteste améliorer, c'est la marchandisation de toutes les activités humaines qu'il nous faut interroger. Les libéraux n'ont que l'économie à la bouche et donc l'efficacité économique. Ils parlent même de rationalité. Ouais, c'est-à-dire qu'on fait des centrales nucléaires qui vont détruire l'ensemble de l'humanité incessamment sous peu, mais ce serait rationnel. Ce serait rationnel, en tout cas en termes économiques, pour produire de l'énergie à pas cher. Mais nous ne sommes pas des ressources humaines, donc on ne peut pas avoir que l'économie à la bouche. Nous sommes des êtres humains, et les services que doivent rendre les services des secteurs d'activité, je n'ai pas dit des secteurs économiques, les secteurs d'activité de la santé, du médico-social, mais aussi de l'enseignement, de la culture, ne peuvent pas être traités comme la vente de bagnoles ou de baskets. En tout cas, pas dans un monde humain. Et ça s'arrange pas. Par exemple, le centre hospitalier de la Ferté-Bernard a fermé ses urgences du mercredi 12 janvier 8h30 au jeudi 13 janvier 8h30. Il est régulièrement confronté à ce type de problème, tout comme celui de Saint-Calais, l'hôpital du Bailleul, qui est actuellement fermé, dont les urgences sont actuellement fermées les nuits jusqu'au 17 janvier, ainsi que toute la journée du vendredi 14. Problème de recrutement de personnel, pas assez d'argent, pas assez de candidats. Eh bien, ça ne s'arrange pas. Eh bien, d'ailleurs, le samedi 15 janvier, si vous avez l'occasion d'aller à la salle Vaujoubert à Rouillon, l'association de citoyens contre les déserts médicaux organise une nouvelle réunion publique d'information à propos de la pénurie de chirurgiens dentistes dans l'un des pays les plus riches du monde. Ah ouais, mais si on essaye de rattraper les États-Unis, eh bien, forcément, on se retrouvera avec des déserts médicaux partout et puis ben, juste de la santé pour ceux qui sont les plus riches. L'association assure que la santé, et pas uniquement le Covid, doit devenir un sujet de débat majeur entre les candidats à l'élection présidentielle de 2022. On n'est pas loin de leur donner raison. Les postiers, mardi après-midi, étaient contre la privatisation de la cantine de la sous-traitance, c'est toujours ça de moins de fonctionnaires, et ils se sont donné rendez-vous à 14h, place de la préfecture à Le Mans. Jeudi, c'était les personnels de l'éducation nationale qui s'y sont collés. 1350 personnes réunies devant la cité administrative. Et si on veut essayer de résumer ce qui s'est dit, on avait ce petit son-là. Bon, la batouque militante du coin, elle est quand même assez couillue. Oh là, j'aurais pas dû dire ça, je vais me faire sauter dessus. Par toutes les féministes de tout poil, en tout cas, c'est composé essentiellement de femmes, c'est du moins ce que l'on pouvait voir. Ce jeudi 13 janvier, dans les rues de Le Mans, où on avait 1350 personnes. Tiens, j'ai pas regardé ce que disaient le Ouest France et le Maine Libre. J'espère qu'ils se sont rapprochés de la vérité. Ce coup-ci, ce serait pas mal. Donc, les 1350 personnes en question sont allées faire des petits tours dans les rues du Mans, mais il n'était pas que 1350 à Le Mans. Non, non, il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté dans toute la France. D'aucuns parlent de plusieurs centaines de milliers. Je n'irai pas jusque-là. De fait, on dirait bien que le ministre de l'Éducation nationale a senti le vent du boulet et il a peut-être un petit peu flippé sa race. On ne peut pas parler comme ça normalement. Hey, je vous rappelle qu'on est quand même dans une situation où un banquier qui nous sert de président de la REP, la République, veut emmerder une partie des Français. Ah non, il en a envie. C'est pas qu'il le veut, il en a envie. Ouh, petit caprice de star. C'est bien d'être un prince quand même. Bon, allez, on va parler plus sérieusement. De fait, le ministre de l'Éducation nationale a senti que la rage était dans les cœurs et qu'il faudrait peut-être faire un petit quelque chose. Alors, le champion du monde de l'effet d'annonce est venu se faire voir dans un certain nombre de médias pour assurer qu'il y aurait 8000 recrutements dans les... Là, ça a été un petit peu compliqué. Dans les jours qui viennent. Alors, les jours qui viennent, c'est un futur simple. Ils viendront bientôt. Ah, là, c'est un futur tout court. Le futur en question, il va peut-être être un petit peu comme d'habitude dans l'éducation nationale. Un futur qui n'existe pas. Une espèce d'utopie. Oui, parce que comme il est champion du monde de l'effet d'annonce, M. Blanquer n'est cru que sur ses actes et en tout cas pas sur sa parole. De fait, quand il annonce ça dans les médias, c'est sûrement pour rassurer le bourgeois et pour bien faire comprendre que s'il y a de nouvelles manifestations parce que c'est déjà appelé par le syndicat Sud pour le jeudi 20 janvier. S'il y a de nouvelles manifestations, etc., elles ne sont pas légitimes. Il y en a 8000 de plus. 8000 de plus, oui. Alors, avec quel contrat? Combien d'heures cela fera? Est-ce que véritablement, ce n'est pas juste un tout petit rattrapage de ce qui manque dans le monde de l'enseignement? En tout cas, quand on voit des critiques faites par des candidats d'extrême droite et de droite sur le fait que c'était bien mieux avant dans l'éducation nationale, on peut se demander si avant, justement, dans l'éducation nationale, il n'y avait pas les budgets conséquents et nécessaires pour peut-être assurer un minimum l'éducation de nos chères têtes blondes. Mais alors, on a aussi les SAMU qui se sont mis en grève le vendredi 14, les agents administratifs qui se sont mis en grève également le vendredi 14. On peut se demander, mais à quand la convergence des luttes? Eh bien, ça tombe bien, le 27 janvier, les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDEL, MNL, UNEF, UNEL soutiennent les actions et mobilisations organisées dans les jours et semaines qui viennent pour exiger des augmentations de salaire et défendre les emplois et conditions de travail et appellent à une mobilisation interprofessionnelle sur les salaires et l'emploi le jeudi 27 janvier 2022. Voilà ce que nous dit un communiqué qui a été pondu à Montreuil. Donc c'est donc le siège de la CGT, le 17 décembre 2021. Bon, la CFDT s'associe pas? Non, bah non, faut pas exagérer non plus. Je rappelle qu'il y avait également des militants de la CFDT dans les rues. Oui, dans les rues du Mans, le jeudi 13 janvier, avec les membres de l'éducation nationale. Donc je vous dis, hein, s'il y a la CGT dans la rue, maintenant, il manque la CFTC, mais... c'est que ça va vraiment très, très, très mal. Donc, jeudi 27 janvier 2022, retenez cette date pour essayer de faire entrer un petit peu les problèmes sociaux dans les différentes campagnes électorales qui ont lieu actuellement. On aurait pu vous parler également de construire la ville sur la ville. Un samedi, c'était samedi dernier pour les auditeurs du direct, le samedi 8 janvier après-midi, au Bois du Fouillé, c'est rue de Ruaudin au sud de Le Mans, une cinquantaine de personnes se sont réunies pour planter les sapins de Noël dont on ne veut plus à un moment et qu'on retrouve sur les trottoirs. Ouais, poubelle. Ah oui, il y a des gens qui mettent des sapins à la poubelle. Ben oui, c'est un déchet. Ah oui, il y a des gens qui mettent du pain à la poubelle. Non, mais c'est vrai. Il apparaît qu'il y a plus de 10% de ce qui est acheté qui n'est pas consommé et donc qui est mis directement à la poubelle. En nourriture, hein. Ah oui, on est dans un monde où on est capable de mettre de la nourriture dans une poubelle. Oui, parce que les gens ne savent pas que ça pourrait très bien s'autodétruire gentiment et donc se composter dans de la terre. Mais c'est quoi de la terre? Ah, c'est ce qui est en dessous, le bitume. Autant vous dire que là, j'en ai perdu déjà une petite partie de la population des auditeurs. Et ça fait peur. Eh bien, ceux qui voulaient planter les sapins de Noël entendaient par là lutter contre un projet immobilier qui devrait raser le bois du Fouillé pour y installer plus de 500 logements. Une première étape avait déjà eu lieu fin septembre pour alerter sur la destruction de centaines d'arbres sur 32 hectares avec la mise en place d'une banderole pour sauver le bois du Fouillé et qui est visible par tous les gens qui remontent la rue de Ruaudin pour rejoindre la rocade quelques centaines de mètres plus loin. La désinformation autour de ce projet est quand même effarante. Le projet n'est pas arrêté à ce jour et toutes les informations sont désintox. Eh ben voilà ce que tweet un certain monsieur Christophe Counil. Et pourquoi il tweet tout ça? Eh bien, il met des croix en disant « il n'y aura pas 535 logements au Fouillé ». Il n'est pas question de raser 32 hectares de forêt. Eh bien, première nouvelle, la désinformation autour de ce projet est quand même effarante. C'est lui qui est effaré. Simplement, ce tweet du conseil départemental du canton qui comprend le quartier de Vauguyon, c'est une communication pour le moins agressive de la part de M. Counil. Serait-il gagné par la culture du clash? Ce serait bien s'il informait les gens qu'ils sont en train de donner de la désinformation. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le plan local d'urbanisme de Le Mans Métropole, approuvé en janvier 2020, dans le cahier communal concernant la ville du Mans, page 102-103, ah bah oui, on essaye d'être précis, hein. On peut lire. Le projet de développement résidentiel de la ville du Mans pour la période 2019-2030, alors prévoit, oriente, localise, etc. Et le sixième point nous dit, donc ce projet de développement résidentiel confirme, En extension urbaine, le développement de la ZAC, zone d'aménagement concerté, du Fouillé au sud. Ce projet comprendra notamment une offre en habitat caravane. Donc dans le PLU, le plan local d'urbanisme, le nombre de logements et la superficie des bois détruites ne sont pas notés. Mais les chiffres avancés ne sont pas des lubies. Non, non, en l'occurrence, ces chiffres ont été donnés lors de comités de pilotage avec l'entreprise qui est chargée du projet immobilier, avec la mairie et avec un certain monsieur Giré qui est président du comité de quartier du Grand Vauguyon et qui participe à ce comité de pilotage. Il nous confirme d'ailleurs sa présence. Il nous l'a confirmé, pardon, fin septembre. C'est pour ça que je reprends ce petit son que je retrouve pas. Alors là, ah bah là, nous voilà bien. Non, je le retrouve pas. Ah bah c'est dommage, parce qu'il nous aurait confirmé sa présence au comité de pilotage et il nous aurait confirmé également qu'il avait un petit souci, en l'occurrence qu'on le laissait parler, mais qu'on ne prenait pas du tout en compte, les différentes choses qu'il disait. Et lui avait ses chiffres, c'est-à-dire 535 logements. Et également le fait que l'ensemble du bois, ou presque, allait être rasé. Depuis, il n'avait pas d'autres nouvelles. Alors, si le projet n'est plus celui-là, comme l'affirme M. Counil, il faudrait peut-être en avertir les concernés et peut-être faire autre chose que de les informer par des tweets. Et surtout que ces tweets sont visibles par tout le monde. Et peut-être que la communication passerait mieux s'il n'était pas indiqué que le projet n'est pas arrêté à ce jour et toutes les informations sont désintox. Ça veut dire que ceux qui seraient contre le projet ne sont que des fomenteurs de je ne sais pas quoi, que des comploteurs et que des créateurs de fake news. Eh, ça ne favorise pas une communication tranquillou. Non, alors ce serait bien, peut-être, Monsieur Counil, la prochaine fois, de le dire quand vous avez des informations que tout le reste des gens du comité de pilotage n'ont pas. Jeudi, justement, ça nous intéresse parce que jeudi 20 janvier 2022, si vous voulez en savoir plus, à la Maison des citoyens, citoyennes, place des Comtes du Maine. L'accès est en face de l'accès du tram, Comte du Maine. Eh ben, vous descendez les escaliers et puis là, vous vous retrouvez à la Maison des citoyens, citoyennes. C'est là où auparavant, il y avait un centre commercial qui n'a jamais fonctionné. On descend les escaliers, c'est la première porte à droite après les portes automatiques. Et là, il y aura donc ce jeudi 20 janvier à 20h, Le Mans Métropole. Quel urbanisme, quelle biodiversité. Ça sera co-organisé entre Alternativa et le collectif pour le bois du Fouillé. La question qui est... Alors, on aura une conférence débat avec M. Gavalet, qui est le président de la FNE Pays de la Loire et Sarthe, c'est-à-dire des écologistes, une fédération nationale de l'environnement. Et donc l'idée, c'était d'associer justement, de prendre comme exemple cet aménagement du bois du Fouillé pour voir comment eh bien, on peut passer de la ville sur la ville à, tiens, si on étendait un petit peu l'ensemble. Le bois du Fouillé de 32 hectares est promis à la destruction pour la construction de 500 logements individuels ou collectifs sociaux et écologiques. Voilà les informations qui étaient présentes, qui sont présentes sur l'appel à ce débat. Et donc, pas d'autres informations. Donc, ce serait bien, M. Counil, envoyez pas des tweets. Faites un autre comité de pilotage. Et donc, tout ça aura lieu, je vous le rappelle, jeudi 20 janvier à 20h pour en savoir un peu plus sur Le Mans Métropole. Quel urbanisme, quelle biodiversité. On aurait pu également vous parler d'humanisme à la sauce La République en marche. Souvenez-vous, en juillet 2017, le banquier qui nous sert de président de la République faisait un joli discours. Il faisait un joli discours où on pouvait entendre ça.
La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi.
Ah bah oui, c'est un libéral, hein. Alors forcément, le dernier mot, c'est l'efficacité économique, bien sûr. Bon, bah là, on se dit, d'abord, il joue très mal. Pourquoi mettre autant de temps entre les bois ou perdus? Ah non, bah ouais, non, bah ça c'est pour faire pleurer dans les chaumières. Hein. Bon, moi je vous dis, je vais pas voir son dernier spectacle. Hein. Donc tout le monde avait pensé qu'il parlait de tous les SDF, mais en fait, il parlait des demandeurs d'asile seulement. Les deux étaient justement représentés dans le squat des Joyeux Jardins à Rouen, un ancien couvent situé en plein centre-ville dont le terrain a été vendu à un promoteur pour qu'il y fasse des logements pour Rupin qui peuvent se payer du mètre carré de centre-ville, même à Rouen. Les habitants du squat ont été expulsés à 8h du matin le mardi 11 janvier, en plein hiver, avec l'aide de nos impôts qui payent les policiers chargés de maltraiter ceux qui ne voudraient pas obéir aux décisions de justice. Une expulsion en plein hiver, cela va à l'encontre du discours présidentiel. Cela va à l'encontre des valeurs républicaines. Ah oui, la fraternité, c'est pas mettre quelqu'un dehors en plein hiver. Le fait qu'il n'ait plus de logement, c'est quand même pas très très fraternel. Eh ben, on peut se dire même, ça va à l'encontre du droit. Eh ouais, mais c'était sans compter avec l'humanisme à la sauce La République En Marche. En novembre 2018, est votée la loi Élan, qui permet à un juge de prononcer une expulsion de squat et de supprimer la trêve hivernale habituellement sous couvert que l'État assurera le relogement. Ce qui n'est pas forcément le cas. Cette loi Élan, devinez par qui elle a été votée? Eh bien une majorité, La République En Marche. Cette loi Élan, elle mettait du logement, elle mettait et du numérique. Et tiens, je te fais un paquet. Et puis bah, au milieu de tout ça, un petit amendement à limiter ben, notamment la possibilité pour les squatteurs de pouvoir rester jusqu'à la fin de la trêve hivernale. De même, dans cette loi, il y avait un délai de 2 mois avant hein, cette loi. Il y avait un délai de 2 mois entre le commandement à partir. La justice décide que vous devez dégager du lieu que vous squattez. OK. Donc 2 mois entre ce commandement à partir et la possibilité d'expulsion. Ça permettait aux squatteurs de se retourner, d'alerter le public pour pouvoir, pourquoi pas, mettre en œuvre un rapport de force avec le propriétaire, parce que les propriétaires, la plupart du temps, ce sont soit des organismes publics, soit des entreprises publiques, soit des collectivités territoriales. Eh bien là, ce délai de 2 mois peut être diminué, voire annulé par le juge grâce à la loi Élan. Et donc les squatteurs peuvent se retrouver à la rue le lendemain du jugement, suivant l'influence du propriétaire sur les pouvoirs publics qui mobiliseront les forces de l'ordre. Oui, oui, il y a des propriétaires qui ont le moyen de mobiliser les forces de l'ordre à travers les pouvoirs publics. Cette loi fut votée par la majorité En Marche, une majorité de propriétaires dont les électeurs sont des propriétaires. Mais quelles auraient pu être les valeurs d'un parti dirigé par un banquier d'affaires? On me dira, il n'a jamais dirigé le parti. Non, bien sûr. Bien sûr, il ne l'a jamais dirigé. En vrai, c'est vrai qu'il n'y avait pas le tampon dirigeant du parti La République En Marche. Emmanuel Macron. EM En Marche. Quand vous votez pour quelqu'un, soyez un petit peu raisonnable. Bon, déjà, on peut se demander quel est l'intérêt de voter pour des gens qui se font passer pour nos représentants et qui, une fois au pouvoir, continuent simplement leur carrière. Mais quand vous votez, soyez raisonnable. Connaissez au moins le pédigré des candidats. Leur statut social en dit déjà beaucoup sur leur idéologie. Et là, ben, on vient de se taper quoi ? On vient de se taper l'idéologie des marchands de quoi ? Bah des marchands de biens. On vient de se taper l'idéologie de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La propriété privée est sacrée. Cette idéologie, c'est celle de La République En Marche. Incessamment sous peu, on va nous demander encore une fois de mettre un bulletin dans une urne ou d'appuyer sur un bouton pour ceux qui votent au Mans. Bah, ce serait peut-être intéressant de savoir pour qui on vote exactement et pas de se dire, tiens, il est jeune, il est beau et en plus, sa femme, elle est prof de théâtre, ça assure le spectacle. Je ne sais pas si ça l'assure, en tout cas dans lemansmaville.com, un gratuit. En première page, on a « Ils vont faire l'actualité ». Retenez bien le nom de ces 3 manceaux. Ils sont réalisateurs, comédiens ou encore chanteurs et comptent sur 2022 pour développer et sortir leurs projets. Et voilà l'économie dans laquelle nous sommes, la société dans laquelle nous sommes et celle du spectacle. Le spectacle est plus important que la vraie vie. Ce serait bien d'inverser un petit peu cette tendance et de revenir à des valeurs. Je crois que les gens qui ne sont pas dans le spectacle sont peut-être aussi importants que les autres et peut-être qu'on a autant besoin du spectacle que d'autres choses pour faire de cette vie quelque chose de vivable, pour faire de cette société une société vivable. On vous rappelle que le 20 janvier à 20h, Maison des Citoyens, Place des Comptes du Maine, Le Mans Métropole, quel urbanisme, quelle biodiversité. Là, on est dans le concernant Le Mans Métropole. Pour les auditeurs qui habitent dedans, eh bien, un jour, peut-être, vous allez avoir l'érection d'un immeuble juste devant chez vous. C'est dommage, vous aviez le soleil auparavant. En attendant de savoir comment on va être mangé, eh bien, je vous dis tout simplement, allez, au revoir. Ah, Juste, on retrouvera Karl Polanyi la semaine prochaine.